Les Jeux olympiques se déroulent actuellement à Tokyo et on voit souvent des athlètes à la télévision quelques minutes ou l'instant d'une compétition qui battent des records. Mais il y en a aussi qui, à l'opposé, décident qui craquent sous la pression. C'est le cas de Simone Biles, entre autres, qui a craqué, la superstar de la gymnastique américaine, qui a abandonné hier ses coéquipiers au début du concours général par équipe de gymnastique parce qu'elle n'est pas capable de subir la pression. Puis il y a d'autres athlètes, d'autres cas également qu'on pourrait mentionner. On parle de Penny Oleksiak, qui avait été la grande vedette des Canadiennes des Jeux olympiques de 2016, qui a admis avoir vécu des problèmes très importants par la suite de gestion de cette nouvelle réalité de vedette qu'on lui avait donnée alors qu'elle avait 16 ans. Donc, sur le plan psychologique, c'est extrêmement compliqué pour les athlètes. Bruno Ouellet est psychologue sportif. Il est spécialisé justement dans la gestion de ces émotions-là et de la préparation psychologique des athlètes. Bonjour, Monsieur Ouellet.
Oui, bonjour.
Alors, je veux commencer avec Simone Biles, parce que c'est sans doute le cas le plus spectaculaire qu'on a en ce moment. C'est la grande vedette américaine. Elle va gagner des médailles d'or, c'est presque assuré. Et puis finalement, quelques minutes avant la compétition, on décide de tout abandonner. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une athlète comme ça?
Parce que ce qui est certainement important, c'est juste de se rappeler que dans le fond, les athlètes, c'est pas des machines à gagner des médailles. Puis ultimement, tu veux pas faire ça juste pour gagner l'or ou gagner devant un public. Je pense que Simone Biles a fait tout un cheminement au cours des dernières années, si on considère tout le parcours qu'elle a eu.
Ouais.
Puis la grande question qu'elle s'est posée, c'est est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi? Puis c'est plutôt ce qui est rassurant ici, c'est qu'elle a décidé qu'elle n'était pas prête pour compétitionner. Puis elle a été capable, dans le fond, c'est une grande force, un grand courage, puis c'est aussi une illustration d'être capable de supporter une grande pression, parce qu'elle a décidé de ne pas le faire pour les autres, elle a décidé de prendre soin d'elle, dans une certaine mesure, parce qu'elle démontre, c'est de la vulnérabilité, qu'elle démontre, c'est du courage. Puis ça, il faut le saluer. Mais on n'est pas habitué de saluer ce type d'accomplissement-là. On vit dans une culture qui souligne surtout les accomplissements, les médailles. Donc, lorsque les gens démontrent cette vulnérabilité-là, ça nous fait réfléchir. Puis ça, je pense que c'est une réflexion collective là, qui est bonne à faire.
Mais ça soulève aussi la question de l'accompagnement qu'on peut avoir de ces athlètes-là. Parce que si elle s'est sentie comme ça, ça devait être parce qu'elle se sentait... Sur ce plan-là, en tout cas, elle devait se sentir un peu seule, un peu abandonnée jusqu'à un certain point, non?
Bien, je pense que cet abandon-là, ils l'ont vécu. Si on se rappelle là, ce qui est arrivé avec la gymnastique américaine, puis le fameux médecin là, qui a abusé sexuellement, là, je pense que c'est des centaines d'athlètes. Mais je pense que pendant plusieurs années, il y a certainement eu une absence là, de support. D'un autre côté, elle a un entourage qui lui a... Simone Biles, là, c'est un peu c'est une petite entreprise, c'est une PME qui fait en sorte que des gens elle a beaucoup de contrats de publicité. Elle est la tête d'affiche américaine. Les attentes sont très, très élevées. Donc, effectivement, ça prend des gens qui sont autour d'elle, qui ont une certaine objectivité pour l'aider, elle, à prendre ses décisions et non pas le faire pour les autres, mais le faire pour elle.
Bon. Et j'aimerais qu'on revienne sur Penny Oleksiak, dont je ne sais pas si vous avez vu son histoire un peu.
Oui.
Mais évidemment, à 16 ans, elle gagne des médailles. Personne ne la voyait là, première des choses. Personne n'avait jamais entendu parler d'elle, en tout cas dans le grand public. Là, c'est sûr que les gens qui suivaient la natation la connaissaient, mais dans le grand public, en général, on ne connaissait pas Penny Oleksiak. En 2016, elle devient instantanément une vedette parce qu'elle remporte des médailles d'or, etc.
Ben oui.
Et là, elle admet elle-même qu'elle n'était pas préparée à ce qui a suivi et à toute la pression que ça lui a amené, au point où elle est devenue boulimique à un certain moment où elle a même cessé de s'entraîner.
Ben oui. Mais puis encore une fois, là, tu sais, ça, c'est vraiment une illustration. Une belle illustration. Je veux dire, quand t'as 16 ans, là, je veux dire, ton coffre à outils, là, t'as pas toutes les méthodes, toutes les techniques, puis t'as pas souvent pas tout l'entourage nécessaire aussi pour faire face à ce type de situation-là. Puis c'est plutôt rassurant, encore une fois, qu'elle dit, j'étais pas préparé.
Ouais.
Donc, elle a dû apprendre, puis développer aussi certaines compétences. Puis ça, il n'y arrive jamais tout seul. Souvent, on voit le nom de ces grandes vedettes-là, puis on se dit, waouh, ils ont un parcours vraiment exceptionnel. Mais souvent, ce que ça prend, c'est vraiment une bonne équipe autour d'eux pour les aider à se développer. Puis, c'est dans le fond, il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça.
Ouais.
Sauf que publiquement, on ne va pas en parler. Parce que ce qu'on valorise par-dessus tout, je veux dire, c'est le résultat. Ce qu'on valorise par-dessus tout, c'est la dureté du mental, là, un petit peu comme la phrase célèbre là, dans le film Les Boys, qui souvent nous fait plus, qui fait plus de mal à l'approche qu'on va avoir dans le sport que ce qu'on devrait avoir.
Mais vous, quand vous accompagnez des athlètes, là, est-ce que vous les préparez à ça, à leur dire... je comprends là, que vous avez une partie de votre travail, c'est de dire, bon, ben, je vais te préparer psychologiquement pour que tu puisses performer, mais par la suite, le résultat de cette performance-là, est-ce que vous les préparez à ça?
Bien, la préparation, souvent, va se faire dans les échanges, dans les discussions. Je veux dire, on peut anticiper un petit peu ce qui va arriver par la suite. Puis, le fait d'en parler, souvent, nous permet d'identifier différentes stratégies pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans telle situation, dans telle autre situation. Mais il arrive toujours des situations qu'on n'avait pas prévues. Puis c'est à ce moment-là qu'on doit avoir des personnes autour de soi pour nous aider, des membres de la famille, des membres de l'équipe aussi. Puis il y a plusieurs types de professionnels aussi qui peuvent aider une personne à prendre conscience, à comprendre, puis à développer des meilleures stratégies, tout en se disant aussi que ça peut arriver qu'une personne là va être très anxieuse, être très stressée, puis même va effectivement avoir des impacts qui peuvent mener là à des dépressions aussi. Puis dans cette optique-là, ben, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait le suivi médical. Là.
OK. J'aimerais vous entendre sur deux joueurs du Canadien. En fait, deux personnages qui gravitent autour du Canadien. D'abord, Jonathan Drouin, qui, lui, a décidé d'arrêter carrément au cours de vers la fin de la saison en disant « Regardez, moi, je suis plus capable, j'arrête. » Et puis, il s'est retiré pour sa propre santé mentale, de ce qu'on comprend, là. Et là, on dit qu'il est prêt à revenir. Bon, il va faire le camp d'entraînement. Il aurait fait un cheminement dans sa tête, j'imagine, là. Est-ce que c'est un joueur qui va demeurer fragile?
Mais ça, c'est intéressant, hein, parce que je vous écoute, là, puis vous dites « Ah, j'imagine. » Puis dans le fond, tu sais, c'est... Encore là, on est devant un peu la culture du secret, à savoir que on ne sait pas exactement la situation de Jonathan Drouin. Donc, on infère telle chose, telle chose, telle chose. Puis c'est peut-être aussi correct parce que ça y appartient. Mais dans l'optique où il y aurait eu des enjeux au niveau de son bien-être psychologique, ben c'est clair là que son retour. Moi, je dis ben deux choses. Là. Un, c'est possible. Donc, c'est un retour qui est possible. Il doit être bien, il va avoir besoin de support, de soutien. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile dans l'environnement actuel, son retour, mais c'est pas impossible. Là.
Parce que ça vient
quand même. Ça représente un beau défi autant pour lui que pour son environnement.
Ouais.
Parfois, la solution, c'est de changer d'endroit, mais c'est pas toujours la solution aussi. Je pense que autant pour lui, je veux dire, s'il trouve une façon. De se remettre sur pied, puis si il identifie différentes stratégies avec son entourage, avec son équipe pour l'aider, ben, je pense que c'est possible.
Parce que ça vient avec son lot de pression, jouer pour le Canadien en particulier, là.
Ben, en même temps, ça vient avec son lot de pression, mais c'est une pression que tu apprends à apprivoiser. Je veux dire, c'est possible d'apprendre à gérer ces situations-là, puis cet environnement-là pour pouvoir jouer comme tu es capable de jouer, parce que ultimement, c'est tout ce qu'on souhaite. Puis c'est tout ce qu'il devrait souhaiter lui aussi. C'est pas de le faire pour les autres, c'est pas d'en faire plus, parce que ultimement, ce qu'on veut, puis ce que lui veut finalement, c'est de faire ce qu'il est capable de faire à chaque jour, autant à l'entraînement que lors des matchs là, du Canadien.
Bon, je vais vous poser une question sur Logan Mailloux. Et regardez bien de quelle façon je veux orienter ça.
Vous avez tout un menu, là.
Ah matin. Oui. Ben non, mais qu'est-ce que vous voulez? comment dire, les champs d'expertise, votre expertise s'applique à un paquet d'athlètes en ce moment.
Allons-y.
Alors, Logan Mailloux, qui a été trouvé coupable de crimes sexuels en Suède. Là, il avait envoyé une photo d'une jeune femme avec qui il était en train d'avoir une relation sexuelle, tout ça. Lui-même avait dit aux équipes de la Ligue nationale, « Ne me repêchez pas, je ne le mérite pas. » Alors, le Canadien décide de faire fi de ça, dit, « Ben, OK, je comprends qu'il a dit ça, mais nous autres, on va le repêcher pareil. » Et là, depuis vendredi dernier, depuis qu'il y a eu le repêchage, là, évidemment, c'est le déferlement. Vous auriez pas dû faire ça. Puis on fait une espèce de procès à Logan Mailloux. Pour ce gars-là qui a 18 ans, ça doit être, sur le plan psychologique, extrêmement difficile à vivre?
C'est certain que c'est difficile. Mais dans le contexte actuel... Je veux dire, on veut moins le regarder de cette façon-là. Je veux dire, ultimement, ce qu'on veut se rappeler, c'est la victime. Puis ultimement, ce que la situation a fait ressortir, c'est que dans cette optique-là, je veux dire, le club de hockey canadien, eux, en repêchant Logan Mailloux en première ronde, ben, ont dans une certaine mesure là, récompensé ce comportement-là. Puis je pense que d'un point de vue des valeurs, autant des Québécois, puis que de l'ensemble des personnes qui ont pu commenter sur cette situation-là, ben ça crée un malaise. Puis ça, on peut le comprendre, ce malaise-là, qui n'a rien à voir avec le talent de la personne, qui n'a rien à voir avec la possibilité que cette personne-là puisse se réhabiliter ou quoi que ce soit. Mais que dans le contexte actuel, je veux dire, ce qui semble inacceptable d'un point de vue de la population, et même de plusieurs des commanditaires là, du club de hockey, c'est que d'un point de vue de nos valeurs, je veux dire, c'est il y a une grande contradiction. Puis on veut pas récompenser ce type de comportement-là. Mais je comprends que c'est difficile pour lui, mais c'est pas l'optique qu'on veut prendre. Ce qu'on veut surtout se rappeler, c'est qu'il y a une victime ici. Cette personne-là ne mérite pas cette situation-là aussi.
Ben c'est là où je voulais aller ensuite, la deuxième partie de ma question sur Logan Mailloux, c'était de dire l'impact sur la victime par la suite.
Mais je pense que puis là encore là on est encore dans les inférences là. Mais comme je disais, c'est que ultimement ce que le club de hockey a fait, c'est qu'ils ont récompensé ce comportement là. Donc de cette optique là, je veux dire, c'est sûr que ça n'a pas un impact positif d'un point de vue de la victime là. Puis par la suite, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un soutien général de la population et de plusieurs autres parties prenantes aussi, ce qui envoie là, quand même un message très très clair de, du point de vue là, de la victime pour ouais. Souligner là, tout le soutien, tout le support là, nécessaire. Là.
Ouais. Je veux terminer sur une note plus positive. En haltérophilie hier. On a vu une performance extraordinaire d'une de nos athlètes, Maude Charron, et on l'a vu fondre en larmes. Elle avait encore l'haltère au bout des bras, puis elle pleurait, puis elle avait déjà compris qu'elle venait de réaliser l'exploit de gagner une médaille d'or. C'était beau à voir ça hier, hein?
Mais effectivement, là, c'était très, très beau à voir ce moment-là. Mais, puis j'ai écouté quelques-unes des entrevues, je veux dire, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est tout le parcours, hein, le parcours d'un athlète là, qui s'entraîne en région, le parcours d'un athlète qui s'est ouais. entraîné dans son garage, le parcours d'un athlète qui a eu le support de sa famille pour trouver une façon de chauffer son garage là, en plein hiver, là, on parle de la région de Rimouski, pour qu'elle ouais. puisse s'entraîner hein, dans une situation là, qui est inédite là, avec la COVID et tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est vraiment exceptionnel qu'elle arrive aux Jeux olympiques prête hein, pour effectivement le gagner. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est tout le parcours.
Ouais, elle aurait pu lâcher devant les obstacles qui se dressaient devant elle. Elle aurait pu dire, oh my God, moi j'abandonne parce que ça devient trop difficile. Puis et elle a persisté.
Ben oui, mais vous savez, hein, on en a 350 athlètes qui ont fait ça aussi. Ouais. Cet été aux Jeux olympiques, mais c'est pas tout le monde qui vont gagner des médailles d'or. Tu sais, je pense à la triathlète là, Amélie Kretz. Puis elle aussi, elle a mis une piscine dans son garage en mars dernier pour ouais. s'entraîner. Elle était partie pendant 6 mois en Arizona, puis elle a fait la meilleure performance canadienne en triathlon là, de l'histoire pour une femme, ce qui est quand même, ce qui est vraiment exceptionnel aussi. On en a plein d'histoires comme ça, mais souvent on souligne surtout les histoires où on gagne des médailles, mais il faut surtout pas oublier, je veux dire, la grande, très très grande force là, de caractère ouais. de plusieurs de ces athlètes-là. Dans la compétition.
Est-ce que vous en avez accompagné des athlètes qui sont aux Olympiques en ce moment?
Oui, j'en ai accompagné quelques-uns.
Oui.
Effectivement, là.
Et vous êtes fiers d'eux, je les suivais particulièrement. Est-ce que,
j'imagine? On est toujours fiers.
Ouais.
On est toujours fiers, puis on se sent toujours privilégié lorsqu'on accompagne quelqu'un dans cette situation-là. Puis ce qui est important, là, quand même, de souligner, puis tantôt, tu sais, vous disiez, c'est que, donc, ma profession, c'est celle de psychologue. Bien, ultimement, moi, je suis toujours là pour la personne.
Oui.
Bien avant la performance,
ouais.
ce qui n'est pas toujours évident dans ce contexte-là, mais on souhaite toujours le mieux parce qu'eux souhaitent de faire le mieux
ouais.
Dans ces moments-là. Là.
Une dernière question, parce que je sais que je suis en train de dépasser mon temps en plus, puis l'autre bord ne sont pas contents, mais est-ce que ça prend une disposition psychologique particulière pour être capable de performer au niveau des athlètes olympiques? Est-ce que ça prend une personne qui a une psychologie ou une dureté du mental particulière?
Ben écoutez, je pense qu'il y a tout le temps différentes dispositions, mais je veux dire, à la base, là, tu sais, c'est pas génétique. Je pense qu'une personne peut apprendre à gérer la pression, à gérer le stress, à se concentrer dans les moments importants. Mais ce qui est particulier avec cet apprentissage-là, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres et dans les conversations, je veux dire, ouais. ça prend de l'expérience pour pouvoir le faire.
Ouais.
Si je reviens un petit peu juste à l'exemple de Simon Biles,
ouais.
Biles, c'est dans la dernière année, ben, il y a pas eu beaucoup il y a eu moins d'entraînement, il y a eu moins de compétition. Donc, il est fort possible que dans un sport comme la gymnastique aussi, qu'elle ait de la difficulté à retrouver ses repères, qui pourrait être un des éléments qui a joué un petit peu, là, sur sa décision de se retirer, là, des compétitions aussi. Donc, ce que je dis ultimement, c'est que pour performer à un haut niveau dans ces environnements-là, ben, ça prend l'entraînement nécessaire. Puis, l'entraînement nécessaire pour un athlète de haut niveau, ben, va varier entre 25 heures semaine jusqu'à 40 heures semaine dans des sports comme la nage synchronisée. Donc, c'est une compétence qui est acquise, qui est développée. Ouais. C'est ce que je dirais, là.
Monsieur Ouellet, c'est toujours, toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir, merci.
Au revoir. Bruno Ouellet est psychologue sportif. Il accompagne certains athlètes qui sont aux Olympiques en ce moment.